Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves, bonjour à tous. C'est indéniablement une étape supplémentaire dans ce déconfinement. Un pas de plus vers la liberté, diront certains. Pour d'autres, c'était même vital. La réouverture des plages, non pas pour aller bronzer, mais pour le simple plaisir de marcher dans le sable et d'aller faire quelques brasses si la température de l'eau ne vous effraie pas. Et c'est possible depuis quelques minutes à La Baule, en Loire-Atlantique, où on vous retrouve, Patrice Gabart. Bonjour.
Bonjour, la mer est belle hein, ce matin à La Baule, le ciel reste couvert et les températures encore un peu fraîches, 7-8 degrés maximum, avec un vent glacial. Les barrières qui interdisaient jusqu'alors l'accès à la plage sont toujours là, mais cela n'empêche les premiers Baulois de regoûter depuis quelques secondes au plaisir d'une promenade ou d'un jogging au bord de l'eau. Je suis d'ailleurs avec Frédéric qui ne voulait absolument pas rater ce moment-là, réveillé depuis 6 heures ce matin pour l'accompagner dans ses premiers pas sur le sable depuis bientôt 2 mois. Allez, on y va Frédéric.
Oui, bonjour. Bah écoutez, oui, c'est sûr que ça fait 2 mois que je m'arrête au bout de la rue, au niveau du remblai, pour regarder si la mer est toujours là. Et heureusement, elle est toujours là. Et puis, bah, de pouvoir profiter de la plage quand on est Baulois, c'est quand même, ça me semble normal.
Les sensations là, les pieds sur le sable, on y est. Hein.
C'est agréable, c'est très agréable. Surtout que le sable a été nettoyé, c'est tout propre. Personne n'a foulé assis, je vois quelques pas, mais voilà, vraiment... Vraiment un des tout premiers à retourner sur la plage.
Alors je vous confirme, hein, je regarde à droite et à gauche. En fait, je vois quelqu'un à peu près à 1 km au loin et on est les seuls là en face de l'avenue Général de Gaulle à La Baule. Alors le décret préfectoral pour La Baule et Pornichet limite l'accès à la plage de 8h à 21h. C'est un accès dynamique qui autorise la promenade, la baignade, même si l'eau reste encore fraîche, hein, 15 degrés ce matin. La pratique sportive individuelle et donc la pêche à pied, tout ça est autorisé. En revanche, toute présence statique est interdite. Autrement dit, les serviettes et les châteaux de sable sont prohibés, comme toutes les activités collective et la consommation d'alcool, même pour se réchauffer par ces températures glaciales, car je vous confirme, pour un 1er mai, il fait très frais ici, sur la plage de La Baule. Pas pour le 1er mai, mais en tout cas pour le 12 mai, il fait très frais ici.
Frisqué donc, mais heureux Patrice Gabart pour ses premiers pas sur le sable de La Baule en Loire-Atlantique. Une question ce matin, ou plutôt un constat. Les Français qui ont répondu présents pour aller travailler dans les champs ne font manifestement pas l'affaire. Souvenez-vous, cet appel à candidature lancé par le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, venez rejoindre les cueillettes. 300 000 candidatures reçues depuis le début du confinement, mais seulement 15 000 volontaires embauchés. Il en faudrait au minimum le triple et les agriculteurs attendent désormais avec impatience l'arrivée des saisonniers étrangers. Reportage dans les Bouches-du-Rhône, signé Étienne Baudu.
Chaque année, Clément Dupont embauche un peu plus d'une vingtaine de saisonniers, principalement étrangers. Grâce à la décision d'ouvrir certaines frontières, 2 Espagnols ont pu le rejoindre dimanche après avoir été plusieurs fois refoulés. En revanche, 7 Marocains restent bloqués dans leur pays qui n'est pas concerné par ces mesures d'assouplissement. Du coup, Clément a fait appel à des travailleurs hors espace Schengen. 2 sont arrivés avant-hier. Pour lui, c'est déjà mieux que rien.
Ce sont principalement des Roumains qui étaient déjà en France, qui a pu être disponible. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, si on avait dû compter que sur des Espagnols ou des Marocains, là, le problème aurait été tout autre parce qu'on aurait été vraiment très en retard sur les cultures.
Et être en retard, c'est l'inquiétude qui mine Camille Poulet. La cueillette de ses cerises doit débuter en fin de semaine. Or, elle comptait sur les saisonniers marocains qu'elle emploie chaque année. Certains viennent depuis 20 ans. Ils bénéficient de contrats aux conditions sociales avantageuses, contresignés par la préfecture. Et pour les remplacer, Camille, elle, rechigne à faire appel aux travailleurs détachés européens.
On nous propose de l'intérim, on n'a pas du tout de regard sur ce qui touche réellement. Nous, ce qu'on sait, c'est juste que ça nous coûte très cher. Pour nous, ce serait quand même logique de privilégier des salariés qui travaillent chez nous. Voilà, tout ce qui va avec, c'est-à-dire la connaissance du travail, l'expérience, tout ce qui fait qu'on réussit une saison correctement.
C'est donc également pour Camille mieux que rien, mais ce n'est pas tout à fait satisfaisant.
Étienne Baudu.
On reparlera avec le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, dans une dizaine de minutes de toutes ces questions. Les travailleurs français seraient-ils moins durs à la tâche, moins efficaces? Ces réponses aux alentours de 8h20. Il est 8h04, cette étude mondiale à présent qui vient confirmer une donnée sur le profil des malades. Les diabétiques sont parmi les publics les plus touchés.
Le risque de décès est en effet 2 fois plus important que pour les non-diabétiques. Ils doivent donc être particulièrement prudents, mais d'autres facteurs sont encore plus aggravants. Écoutez le professeur Sami Hadjaj du CHU de Nantes, il a participé à l'étude.
L'âge et la corpulence sont des éléments majeurs et le risque de mourir est 14 fois plus élevé pour une personne de plus de 75 ans que pour une personne de moins de 55 ans. dans cette étude Coronado. L'autre point, c'est que si vous avez des complications du diabète, complications cardiovasculaires, on le savait déjà, mais aussi complications rénales ou rétiniennes, on multiplie par 2 le risque de mourir. Et puis dernier point, le nombre de personnes avec un diabète de type 1, c'est-à-dire le diabète apparu tôt dans la vie avec un recours à l'insuline, est très faible. Ça veut dire qu'on suspecte que les personnes diabétiques de type 1 ne sont pas à fort risque par rapport aux diabétiques de type 2, c'est-à-dire la majorité.
Voilà le professeur Sami Hadjage du CHU de Nantes. À l'étranger, l'Espagne fait un pas supplémentaire vers un déconfinement de son économie puisque les bars ont rouvert avec des règles sanitaires particulièrement strictes. Le pays qui a par ailleurs choisi d'imposer aux visiteurs venus de l'étranger un isolement de 14 jours. Une scène d'horreur, il n'y a pas d'autre mot, à Kaboul en Afghanistan. C'est une maternité qui a été visée par un attentat hier. 3 terroristes ont ouvert le feu sur tout ce qu'ils pouvaient. Le médecin Eric Chesson est à Kaboul. Il préside la chaîne de l'espoir, témoin du carnage. Je vous préviens, son témoignage est glaçant. Il est joint par Odile Pouget.
Je suis en tant que médecin, en tant que chirurgien, en tant qu'homme, écœuré de cette explosion d'horreur. Tuer des bébés, tuer des mères, tuer des infirmières. Vous vous rendez compte qu'un bébé de 15 heures a été transféré chez nous. Sa mère est morte. Pour rien vous cacher, j'ai appelé un de mes confrères à la Pitié-Salpêtrière. Je lui ai demandé, je lui ai dit, tu as déjà opéré une artère fémorale d'un bébé de 15 heures qui a été sectionné par une balle de Kalachnikov. Il est sans voix, on va l'opérer, mais ça va être extrêmement difficile. J'ai peur que cet enfant perde sa jambe. J'ai vraiment la nausée face à ces gens qui sont capables, au nom d'une foi, je ne comprends rien. Les Afghans n'ont pas mérité ça. Ces Afghans ne veulent pas ça. Ils veulent l'éducation, la santé et enfin la paix. Mais d'arrêter ces massacres horribles.
Voilà, le docteur Eric Chesson, témoignage particulièrement douloureux, mais qu'on a choisi ce matin de vous diffuser parce qu'il reflète aussi la réalité de ce qui se passe aujourd'hui en Afghanistan.
RTL 8h06.
Première compagnie aérienne à reprendre son trafic, la low-cost irlandaise Ryanair annonce 40% de ses vols à partir du mois de juillet, port du masque et prise de température obligatoire, mais pas de distance imposée entre passagers, ce n'est pas obligatoire et ça paraît de toute façon assez compliqué dans les avions Ryanair.
En effet, si vous aviez prévu d'acheter une voiture neuve ou même d'occasion avant le confinement, c'est sans doute le bon moment.
La grande braderie a démarré, le marché de l'auto a chuté de 88%, totalement à l'arrêt ces dernières semaines, alors les professionnels qui ont accumulé de nombreux stocks cherchent à les écouler, quitte à casser les prix. Christophe Bourou.
Jamais en 10 ans, il n'y a eu autant de promotions. Citroën, par exemple, fait une ristourne de plus de 3000 euros sur l'un de ses modèles, le C5 Aircross, ou encore une remise de 30% si vous achetez la petite citadine Nissan Micra. Casser les prix plutôt que d'avoir du stock à gérer, car au plus fort de la crise, plus d'un demi-million de véhicules se sont retrouvés sur les parkings, soit l'équivalent de 4 mois de production. Il y a donc du choix, selon Guillaume Paoli, à la tête d'Aramis Auto.
Effectivement, on a beaucoup de véhicules en stock, on a plusieurs milliers de véhicules en stock. On a ajusté nos prix, on a baissé nos prix. On a jusqu'à moins 45% sur certains véhicules, comme des berlines compactes. Et je pense sincèrement que c'est un très très bon moment pour acheter une nouvelle voiture.
Ristourne aussi pour l'occasion. Alors si la fièvre est moindre que pour le neuf, les prix devraient tout de même baisser dans les prochains jours, selon Vincent Encart, qui dirige le site en ligne Autoscout24.
En occasion, on parle de rabais entre 5 à 10%.
Promotion qui pourrait relancer à court terme le marché, mais qui n'effaceront pas des semaines de pertes, puisque les professionnels attendent cette année un recul historique des ventes de l'ordre de 20 à 30%.
Christophe Bourreau pour RTL. La voiture qui sera peut-être bientôt très utile pour profiter du cinéma. Le drive-in revient à la mode. On voyait ça beaucoup dans les films américains les années 70-80. Et bientôt, ce sera peut-être ça, le drive-in. C'était hier soir, en tout cas, à Cray, dans la Drôme. 120 véhicules et leurs passagers qui ont assisté à la projection du film La Bonne Épouse avec Juliette Binoche, sans sortir de la voiture. C'est le principe. Reportage de Frédéric Perruche.
Un concert de klaxon pour lancer la séance sur cet immense parking du centre-ville transformé en cinéma pour le plus grand plaisir de Gérard.
C'est une très très bonne initiative parce qu'on est privé de cinéma depuis longtemps et le fait de le faire en plein air, ça permet de respirer, de sortir. Il y a longtemps qu'on n'a pas eu une fête en fait. Ça fait beaucoup beaucoup de bien.
Ça va, super, ça va.
Sur l'écran géant, à 4 dans le cabriolet, chaudement vêtu, Sylvie et sa famille retrouvent avec bonheur Juliette Binoche, Yolande Moreau, François Berléand. Une première sortie culturelle depuis 2 mois, très appréciée.
Je pense qu'il y a une atmosphère assez heureuse qui règne ici, après 2 mois sans pouvoir aller ni au musée, ni au cinéma, nulle part. Donc je pense que c'est hyper important. Ça ressource aussi.
Bah, super, des choses simples, être avec les siens, partager des moments comme ça, c'est très riche.
Aujourd'hui, voilà, une sortie au ciné prend une autre dimension. On respire.
Clap de fin, soirée réussie, se félicite le maire de Cré, Hervé Mariton, à l'origine du projet.
Un spectacle, un moment de partage protégé dans sa voiture, quelque chose d'un peu original, il n'y a pas... des drive-in de cinéma à créer tous les jours, tout en respectant absolument les précautions sanitaires. Sympa.
Prochaine séance, mardi prochain, l'opération devrait se poursuivre jusqu'à la fin juin.
Frédéric Perruche pour RTL.
Bah oui, c'est super sympa cette histoire de drive-in. C'était donc